partir de 21h. France Inter.
La différence.
15h03 et vous retrouvez Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Merci, du fond du cœur, merci. C'était Constant de la Gironde.
Ouais, Daniel, salut, là, c'est Bernard de Cléder. Bah écoute, j'entends le début là, de ton émission, et puis les slogans que tu as lancés, là, tu parles de Vichy, etc. Non mais si franchement ça a été dit, mais c'est du n'importe quoi, c'est quoi ça? Hein, l'ingénieur informaticien là, qui dit qu'au début il ne doit pas y avoir trop de pauvres, ce qui veut dire qu'après il peut y en avoir. Mais c'est des fous ces gens-là, il faut les enfermer. Hein, bon, je continue à écouter le reste, salut.
Salut Daniel, alors je suis en train d'écouter ton émission sur la manifestation de droite. Alors sincèrement j'ai cru à une blague au début, maintenant je ne sais plus si je dois rire ou pleurer. En tout cas, laisse la parole à ces gens de droite plus souvent, ils font le travail à ta place. Salut, c'était Julien de Morteau.
Ah non Daniel, là tu charries vraiment. Moi qui te prenais pour un garçon sérieux, ton reportage sur les manifs de droite, c'est qu'un monstrueux bidonnage. Dépenser des deniers publics pour regrouper des intermittents du spectacle, leur faire débiter des slogans aussi stupides que crétins, c'est une honte. Tu me feras pas croire que tels nostalgiques du pétinisme et du travail famille-patrie peuvent être si idiots, consternants et calamiteux. Ça peut pas exister en vrai. On peut pas être aussi con. C'est pas possible. Non, je peux pas le croire. C'est au-dessus de mes capacités cognitives. Bref, il faut que t'imposes immédiatement un démenti pour nous rassurer, Daniel. S'il te plaît, Daniel. Et en plus, ils chantent faux. T'aurais quand même pu les faire répéter avant. C'était Jean de Montcru, dans l'Oise.
Salut, c'est Rémi de Lyon. Énorme le gag de la manif de droite. C'est de toute évidence un poisson de février. Ben oui, un poisson d'avril avec 2 mois d'avance. Allez, ciao.
J'ai souvent été irritée par le parti pris et le ton de certains témoignages dans vos émissions, Daniel. Aujourd'hui, je viens d'écouter le reportage et je dois dire que je vous suis vraiment très reconnaissante d'avoir eu la bonne idée de retransmettre ce reportage de la droite. J'espère que ce sont des jeunes irresponsables. Je n'en crois vraiment pas mes oreilles. À ces relents de fascisme et de haine, de suffisance, vraiment me donnent, et de haine, je crois que c'est ce qui transpire, me donne la nausée. On ne se croirait vraiment pas au XXIe siècle. Et dans un pays comme le nôtre, comme la France, c'est vraiment, ça dépasse tout. Voilà, merci pour avoir eu cette idée de transmission aujourd'hui. Bonsoir.
Bonjour, je suis vigneron en Haute-Savoie. J'étais en train de tailler dans mes vignes. Et j'ai cru à une bonne blague, comme pas mal d'auditeurs, je pense. Et puis on écoute l'émission, puis on se rend compte que c'est pas du tout de la blague et c'est atterrant. Atterrant de voir des jeunes femmes parler comme ça aujourd'hui. Les hommes choisissent pour nous et nous on reste à la maison. Bravo, la droite, continuez. C'est Samuel en Haute-Savoie.
Bonjour, voilà, je suis Michel dans le Var. Après avoir écouté l'émission d'aujourd'hui, je me demande s'il s'agit d'une mascarade, d'une action organisée par la gauche pour discréditer la droite, d'une réelle manifestation dont les slogans me laissent atterrer. Dites-moi que c'est une pantomime, je crains tellement que non. À bientôt, merci pour votre émission.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Certains AMG se sont fait piéger hier dans la manif de droite, certains y ont cru. Et puis, il y a ceux qui ont compris ou deviné qu'il s'agissait évidemment d'une imposture, d'une énorme blague. On avait déjà diffusé cette émission à peu près dans la même version il y a plusieurs années, ben, c'était juste après l'élection de notre président en juin 2007. En tout cas, merci à tous pour ces messages qui me parviennent ici à Nagy Charnock. On n'a pas très bien compris le nom de l'endroit où nous nous trouvons, mais on sait très bien de quoi il s'agit. C'est un endroit magnifique, ici, du côté de Pécht. Vous savez que d'un côté c'est Bouda et de l'autre côté c'est Pécht, chaque côté du Danube. Budapest, et là c'est Pécht. Et là, c'est le marché central de ce quartier absolument magnifique, architecture métallique, architecture de verre, qui ressemble tout à fait au pavillon de Baltard, qui qui constituaient nos halles de Paris autrefois. Nous, on a eu l'idée de démolir ces pavillons. Ici, eh bien, les habitants de Budapest ont eu la bonne idée de conserver cette architecture superbe et d'en faire un marché très, très abondant, visiblement pas à la portée de tout le monde, des légumes magnifiques, raffinés, de la charcuterie, toutes sortes de charcuteries, paprika, tout ce que vous voulez de plus agréable, mais c'est sans doute pas à la portée de tout le monde, à en juger par ceux que nous avons rencontrés, des gens qui sont en difficulté. Le chômage devient de plus en plus terrible dans ce pays, la pauvreté augmente, et le SMIC, par exemple, pour donner une idée, est à 300 euros par mois. Pour ceux qui ont la chance de travailler 300 euros par mois, ce qui n'a pas manqué, évidemment, d'attirer nombre d'entreprises, dont des entreprises françaises, qui sont assez heureuses quand même, malgré les mesures qui sont prises par le nouveau gouvernement, assez heureuses de pouvoir utiliser, exploiter une telle main-d'œuvre. Mais c'est quand même beaucoup plus cher, 10 fois plus cher qu'au Bangladesh. Le Bangladesh, c'est 30 euros par mois. 30 euros par mois, voilà le salaire moyen des femmes, pour la plupart, qui travaillent dans la confection et qui fabriquent ces vêtements qu'on trouve chez Walmart, chez H&M, chez Zara, Marks & Spencer, etc. Au Bangladesh, 3,5 millions de femmes travaillent dans la confection. 3,5 millions d'employés, dont 85% de femmes, pour être plus précis, à 30 euros par mois. Alors, il y a 3 ans, le gouvernement avait décidé une augmentation de 80% des salaires minimums. Mais ça n'a pas plu aux employeurs qui ont refusé cette augmentation. Alors, ça a donné des manifestations extrêmement violentes, véritable insurrection à travers le pays, manifestations qui ont été violemment réprimées par la police, et on a dénombré nombre de morts au cours de ces manifestations. Ça nous renvoie à un reportage que nous vous avions proposé en 2006, à Chittagong, l'incendie d'un de ces ateliers de confection particulièrement tragique, qui avait été suivi de manifestations dans les rues de Chittagong, dans les rues de Dhaka, par ces femmes organisées en syndicats et qui luttent pour un peu moins d'exploitation et de souffrance. Ici, en Hongrie, à Budapest, on voit les effets de la mondialisation néolibérale. Au Bangladesh, c'est la même chose, en pire, et il faut bien avouer qu'on n'en parle pas souvent dans nos médias, surtout en ce moment où nous sommes complètement concentrés sur nos élections, sur la course à la présidence. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe de la base où j'y suis. Bonjour le répondeur. Suite à l'émission sur Jésus-Land de vendredi dernier, je pense qu'il serait bon de donner la parole à une belle athée ou un bel athée. Donc une théière, c'est une très belle athée, une théière de jardin par exemple, comprend qui peut. Mais en bel athée, alors là j'ai le bel athée, c'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp a dit « Dieu est l'idée la plus bête que l'homme ait eu ». Bon, c'est une pensée un peu radicale qui peut en choquer plus d'un, mais bon, il serait bon de donner la parole à Duchamp, puisque ce n'est pas seulement un artiste, c'est un philosophe aussi pour moi. Et je sais que Daniel Mermet aime beaucoup Rouen, donc si vous voulez venir faire un tour à Rouen où Duchamp a habité, on pourrait faire un superbe circuit, voilà. On pourrait même aller à Blainville-Crevon, où tout près de là, il y a aussi le premier cimetière mondial de l'art à Nolleval, et le plus petit musée de France, qui est le musée des arts défécatoires. Et la cerise sur le gâteau, ça serait parler d'un tableau de Marcel Duchamp, qui a été acheté dans une foire à tout à 3 euros. Vous voyez, il y a matière, hein, on pourrait bien rigoler. À bientôt.
Au nom de tous les postes et écoles menacées de fermeture, je veux lire une lettre d'une mère d'élève indignée. Dans ce monde, il y a des choses insupportables, comme d'apprendre que nos écoles vont fermer. Au nom de quoi ? Que faisons-nous de cet enseignement de qualité qui est dispensé par nos chers professeurs des écoles dans des classes non surpeuplées où chaque élève a sa place et chaque élève trouvera sa place plus tard parce qu'il aura acquis des bases fondamentales et solides. Il manque une poignée d'élèves et alors, sommes-nous des chiffres? Tournons-nous vers l'avenir. Comment inciter des familles à venir s'installer dans nos campagnes s'il n'y a plus d'école pour recevoir leurs enfants? Alors que dans chaque commune, des efforts considérables ont été faits pour inviter à l'installation de nouveaux arrivants. Comment croire que la ruralité puisse être défendue par nos élites si aucun effort n'est fait en haut lieu? Que tous ces énarques viennent tâter le terrain pour voir et comprendre de quoi sont faites nos campagnes et comment fonctionnent nos petites écoles, nos communes. Ne faisons pas de nos villages des espèces en voie de disparition. Valérie de Gers.
Mercredi 1er février, le repère de Limoges vous invite à la rencontre avec Alain d'Orange qui viendra nous parler de l'éco-village de Ladignac-le-Long. On vous espère nombreux pour cette rencontre qui permettra d'en savoir un peu plus sur cette expérience du vivre ensemble. On a besoin plus que jamais de se nourrir de ces utopies réalisables et réalisées pour continuer à croire à un autre monde possible. C'est à 18h30, mercredi 1er février, au bar Les Folies, place des Jacobins.
Salut à toute l'équipe de là-bas. Merci pour le reportage d'hier. Enfin merci, je ne sais pas si je dois vous remercier parce que j'ai ri tellement fort. J'ai failli avoir des soucis au boulot. Pour la prochaine manif de droite, une suggestion. À la première, à la deuxième, à la troisième génération, nous sommes tous des enfants fortunés. Voilà, c'était Clément, AFD, auditeur fier et de droite.
Le classique. Comme je l'installais en levrette en lui parlant de Debussy, elle me dit, un peu inquiète, je refuse la sodomie. « Nous sommes faits pour nous entendre, » lui répondis-je romantique. « Cambrez-vous, mais sans vous méprendre, nous aimons tous deux le classique. » C'était Georges Philippe. Salut.
C'est son son préféré au patron.
Although they are mostly illiterate, but they are very sharp. Their hands are very soft, and to handle the garments, Bangladeshi girls, you know, rather than Africans, they have big fingers.
Dans nos usines, nos femmes, même si elles sont illettrées, elles sont très très pointues et elles ont des mains très douces. Et les femmes Bangladeshi, elles s'en sortent très très bien pour la confection, alors qu'en Afrique, ils ont des, les femmes ont les doigts beaucoup plus épais.
So, sorry to say if you have a big finger.
Désolé de le dire, mais si vous avez des gros doigts,
handle a sharp stitching like this.
Pour pouvoir faire une couture très fine comme ça sur une chemise.
C'est vrai, j'ai acheté une veste, elle se découpe partout. Si ça se trouve, elle a été faite en Afrique par une femme avec des gros doigts.
Maybe.
Peut-être.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil, comment meurent les bateaux et qui coupe ma chemise. Une heure pour les femmes noires avec des gros doigts.
La dame est en train de faire des doublures de poche, alors que celle qui est derrière fait les coutures d'un pantalon rouge. Tout ça, ça va être pour cet été, pour la collection printemps-été. Mademoiselle derrière qui est en train de mettre les scratchs d'un pantalon. C'est les différents sons que ça fait. C'est son son préféré au patron.
Non, c'est un son qu'il aime bien parce que c'est un assemblage final.
All are poor lady, very much poor. They have no other source of income.
Voilà, toutes ces femmes sont pauvres et c'est leur seule source de revenus.
Yes, this one, after 10 to 15 days.
10 à 15 jours, il faut que ça soit envoyé.
This one, first of all, we make these garments, then need to send it to wash, then make it iron and finishing, then make it cartoning, then send to.
Ah oui, parce que là d'abord on confectionne, et puis après il faut les laver, et puis après il faut les repasser et les conditionner avant de les envoyer. Donc toutes ces commandes-là, c'est tous ces petits pantalons roses des thés légers avec des poches et des coutures avec des surpiqûres blanches, tout ça va partir dans 10 à 15 jours.
Quelques milliers d'ateliers comme celui-là, au Bangladesh ou ailleurs dans le monde. On pourrait être au Guatemala, en Chine, à l'île Maurice, à Madagascar, dans un de ces endroits, dans un de ces pays où l'on fabrique, entre autres, là en l'occurrence, des vêtements, de la confection, des textiles, comme on dit encore plus vaguement. Au Bangladesh, environ 2 millions. De personnes, essentiellement des femmes, à 90% des femmes travaillent dans ce secteur de la confection. On a voulu savoir, eh bien, alors là vraiment, qui coud nos chemises, qui coud ces vêtements que nous portons ici. On ne sait pas très bien d'où ça vient, on ne sait plus d'où ça vient depuis qu'il n'y a pratiquement plus d'activité de ce genre dans notre pays. La délocalisation, on s'en souvient, a renvoyé pas mal de monde au chômage, au tapis chez nous, et puis ben, c'est parti ailleurs, on ne sait où, dans des pays à bas salaire, avec toujours ce sentiment confus de culpabilité, de honte, en se disant peut-être qu'on est trop égoïste, peut-être qu'on veut tout pour nous, enfin une sorte de préférence nationale par rapport à ces pays pauvres qui, ben, grâce à ces activités, se développent ou se développeraient. C'est ce qu'on suppose et c'est ce qu'on nous dit parfois. C'est plutôt faux parce que ces produits qui sont destinés aux marchés occidentaux, ça peut être d'autres produits, hein. Ça pourrait être au Bangladesh par exemple l'activité dans la crevette, il y a toute une activité dans la crevette, les délicieuses crevettes que nous dégustons, et ben, pas mal viennent du Bangladesh, mais là c'est l'industrie du prêt-à-porter qui devait en principe sortir un pays comme celui-là, le Bangladesh, de la misère, mais en guise de développement, eh bien, les Bangladais récoltent surtout de la paupérisation et de la violation des droits humains. On l'a vu avec l'activité du shipbreaking, c'est la destruction et le recyclage des navires. Et on nous a dit, oui, mais dans le textile, c'est différent. Dans le textile, c'est différent parce que il y a la pression quand même des consommateurs, des pays riches qui n'acceptent pas que les produits qu'ils consomment en matière de prêt-à-porter soient fabriqués dans n'importe quelles conditions. Il y a des choses éthiques, éthiques sur l'étiquette, etc. Alors, eh ben, on va aller voir, effectivement, dans quelles conditions tout ça se produit. Et on va rencontrer l'un des représentants, des patrons de ces entrepreneurs de prêt-à-porter. Et puis, on ira visiter un de ces ateliers où travaillent ces jeunes femmes. Et puis ben, on aura des surprises dans la base où j'y suis, sur France Inter. Désolé, désolé, c'est pas très exotique, c'est pas des sons très exotiques. Ce qu'on entend là, c'est le bruit d'un atelier de confection, comme il y en a beaucoup au Bangladesh. On va faire un tour un peu plus précisément dans cet atelier-là, mais on va d'abord rencontrer M. Abou Tayyab, qui est le vice-président du BGMIA, c'est-à-dire le Bangladeshi Garment Manufacturers and Exporters Association. Vous avez compris, c'est l'association bangladaise des manufacturiers et des exportateurs de vêtements. Régulièrement, mais ça, il faut vraiment être très, très au courant de ce qui se passe dans le monde. Il y a de ces ateliers qui prennent feu, des maltraitances, des accidents de toutes sortes qui n'attirent pas beaucoup l'attention à part de quelques initiés ou de quelques personnes très intéressées. Par exemple, les inspecteurs du travail. Il y a des inspecteurs mondiaux du travail qui sont liés avec le BIT et l'OIT, c'est-à-dire les organisations internationales du travail, et qui sont, eh bien, qui ont pour rôle et pour mission de faire respecter le droit du travail dans tous les pays du monde. Je ne sais pas combien il y a d'inspecteurs du travail au Bangladesh, je crains qu'il y en ait très 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 peu, et s'il y en a, qu'ils aient énormément de boulot et que leur boulot n'intéresse guère le vaste monde, tout empressé qu'il est à regarder ailleurs. Rencontre donc avec M. Abou Tayyab, je le rappelle, vice-président du BGMA, c'est-à-dire président des manufactures des exportateurs de vêtements du Bangladesh.
You know, this is a country of 140 million people.
On est dans un pays de 140 millions d'habitants, vous savez.
Most of them are living below poor level.
La plupart d'entre eux vivant sous le seuil de pauvreté.
This is industry established 20 years back here. 2 million workers are here working.
Cette industrie s'est implantée ici il y a à peu près 20 ans de ça. Et plus de 2 millions de personnes travaillent dans cette industrie.
Most of them are female.
Principalement des femmes.
And this is a revolution in this country. You know, we're fighting our poverty, and last 20 years we have improved ourselves in many ways.
Et donc c'est vraiment une révolution dans ce pays où qui est très pauvre, et ça fait 20 ans de ça qu'on est en train vraiment de s'améliorer et d'augmenter vraiment notre qualité.
Within these 20 years we have improved our quality of our garments, quality of workplace environment, quality of workers' life. We are doing a lot of things for them.
Et en 20 ans, on a beaucoup amélioré la qualité de production, la qualité des sites de production et puis aussi la qualité de vie de nos ouvriers pour qui on a fait beaucoup de choses.
Bangladesh is the only country in this region who is successful to eliminate child labor.
Le Bangladesh est le seul pays de cette région qui a réussi à éliminer le travail des enfants dans cette industrie.
Vous voulez dire que dans les ateliers de confection au Bangladesh, on ne rencontre pas d'enfants?
Especially I'm talking about the garments industries. You can find not a single child work.
En particulier dans l'industrie de la confection, là, vous êtes certain de ne trouver aucun enfant.
Alors dites-moi maintenant, voilà, je porte une chemise là, je l'ai achetée en France, 50 euros. Dites-moi à quel prix elle part d'ici du Bangladesh.
C'est 6 dollars par pièce.
6 dollars, quoi. Donc ça fait 4,80 euros, moins de 5 euros. Voilà.
Alors qu'est-ce qui fait que je l'ai acheté si cher là-bas?
I'm just giving an example.
Oui, c'est un exemple.
Honnêtement, shirts from Bangladesh going to Europe is... start from $4 to $7.
Voilà, une chemise qui quitte le Bangladesh pour l'Europe est entre 4 et 7 dollars.
Voilà. Le textile au Bangladesh, c'est 2 millions de personnes, vous nous l'avez dit. C'est 76% des exportations du pays.
Yeah, yeah.
Et sur les 2 millions de travailleurs, c'est en fait 80% de travailleuses. Mmh. Très bien. Or, vous faites partie des perdants de la libéralisation dans ce secteur.
Yeah, we are definitely losers because, you know...
Oui, on est des perdants, bien sûr.
Yeah, because it is very difficult to compete with China.
Parce que c'est très difficile d'être compétitif avec la Chine.
The problem is that the price is going down every day.
And le problème, c'est que les prix baissent chaque jour.
So we have to survive. We're just struggling to survive.
Donc on se bat vraiment pour survivre, quand on se démène.
But we are really, really grateful to Europe and American people. You know, with this, they are giving us work.
Mais on est vraiment très reconnaissant envers le peuple américain et le peuple européen qui nous donne du boulot.
With this garments factory, our children are going to school.
Grâce à ces usines de confection, nos enfants vont à l'école.
Our poor people getting food from this business.
Les pauvres trouvent de l'argent et gagnent à manger, de quoi s'acheter à manger.
And our total economy is mainly based on this garments industry.
So toute notre industrie repose sur la confection.
We cannot afford to lose this business.
Donc on peut pas se permettre de perdre ce business.
Donc vous êtes menacé par la mondialisation libérale.
Definitely.
Oui, c'est sûr.
C'est le moins disant social qui l'emporte.
Yes, you are definitely correct. This is a very difficult job to survive.
Oui, oui, vous avez raison. C'est très difficile de survivre dans ce marché.
Even then, we are very hopeful because I told you by this last 20 years, we have proved ourselves that we can do. Uh-huh. Although we are poor, we are, but we can do. We can accept the challenge.
Mais ce que je vous dis, c'est que au cours de ces 20 dernières années, on a quand même prouvé qu'on pouvait y arriver et que même si on est pauvre, on peut relever ce défi.
Alors voilà, on entre dans l'atelier de confection. Effectivement, c'est que des femmes qui sont au travail. Il fait assez chaud. Et c'est des ateliers de machines à coudre. Voilà, et c'est vrai que, bon, c'est une usine, mais c'est pas lamentable. Comme ça, quand on arrive comme ça, c'est pas lamentable.
99% is the female.
Ouais, 99% sont des femmes. Là, je vois un homme là-bas qui est installé.
Toutes les femmes qu'on voit pas dans les rues, elles sont ici. Hein, on voit leur visage, on voit qu'elles sont jeunes, celles-ci. Elles sont très jolies en principe.
Tout ça, c'est pour l'exportation à l'Europe, dit le patron. Et voilà ce qu'elles sont en train de faire, des espèces de petits pantalons.
Des pantalons blancs, comme
pour
ça.
La saison été 2006.
C'est pour quel client?
Lowland Fashion.
Lowland Fashion. C'est pour les Pays-Bas.
Lowland Fashion, on va avancer un petit peu. Elle n'est pas née, hein, les petites dames. Est-ce qu'il ne faut pas garder les hommes? Est-ce qu'il ne faut pas garder les blancs?
Ou est-ce qu'il faut produire?
Visiteurs, est-ce qu'il faut produire? Ah oui, il n'y a pas un regard sur nous. Si, de temps en temps, mais c'est à la dérobée quand même. Hein. Elles sont très très jeunes. Alors évidemment, c'est toujours ce qu'on nous fait visiter. On nous fait toujours visiter les endroits où ça marche, quoi. Avec le gars debout, avec son maître autour du cou, qui vérifie, qui contrôle.
Oui, c'était le 10 avril 2005 dans la zone franche de Savar, dans la banlieue de Dhaka, donc capitale du Bangladesh. Une usine de 9 étages, j'en parlais tout à l'heure, s'est effondrée sur les ouvriers, en majorité sur les ouvrières donc, qui travaillaient dans un atelier comme celui-là. Et il y a une centaine d'entre elles qui sont mortes écrasées. Et le lendemain de l'accident, le réflexe des autorités a été d'envoyer la police anti-émeute qui a eu ordre de prendre position pour affronter la colère des proches des victimes. Hein, Voilà le genre de réaction. Alors, quel lien? On dit, mais d'accord, mais les pauvres gens, ils sont là-bas, puis nous, on est ici. Il y a quand même un lien, évidemment, entre ces ouvrières et nous, ben, c'est les marques. C'est les marques que nous portons. Là, en l'occurrence, dans cette usine de Zavar, à côté de Dakar, c'était la marque Zara qui avait passé des commandes et qui a promis d'indemniser les victimes, parce qu'évidemment, ça la fout mal, hein, pour la marque Zara, quand vos vêtements sont là. Si vous pensez que dans quel état sont les ouvrières, évidemment, vous n'avez pas trop envie d'acheter. Alors, ils essayent toujours de camoufler ça, mais ce n'est pas les seuls, soyons justes, ce n'est pas les seuls. Parmi les commanditaires des objets confectionnés dans cette usine, il y avait un certain nombre de marques internationales, dont par exemple Carrefour, qui est impliqué dans cette affaire. Mais il y a aussi d'autres marques comme Gap, comme H&M, comme Old Navy, Tesco, Lady Bird, North Face, Lee, Wrangler, Cherokee, Burton, etc. Toutes ces marques que nous portons, enfin beaucoup de ces marques que nous portons, eh bien, sont fabriquées dans ces ateliers par ces ouvrières avec des doigts si fins qui font l'admiration de Monsieur Abou Tayyab.
We are working for companies like Gap.
Nous, on travaille pour des compagnies comme Gap,
Old Navy.
Old Navy.
Like Marks & Spencer.
Ou alors comme Marks & Spencer, on travaille pour eux.
CNA.
CA.
And in France, et... like Carrefour.
En France, par exemple, on travaille pour Carrefour.
Carrefour, c'est une grande,
yes,
grande entreprise.
Doing, yeah.
Oui, beaucoup de travailleuses travaillent pour Carrefour.
All they are happy with our workmanship, you know. They are happy with our
workmanship. Ils sont tous contents de notre travail.
Carrefour, ils sont contents, alors.
Yeah, they are also very happy, you know.
Oui, 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 ils sont très contents.
Alors, il y a eu cette histoire de l'usine Spectrum.
Spectrum. Actually, you know, gentlemen, I'm telling you one thing. This is a simple accident.
Ça, faut que je vous dise, c'était vraiment un cas particulier. C'était un accident.
You cannot judge, you know, incident with the whole nation.
On peut pas juger tout un pays à l'aune d'un seul incident.
Enfin, ça a quand même été terrible.
Non, it was definitely terrible, you know. You know, accident may happen in Paris also, because...
Mais vous savez, c'est terrible, il y a des grands accidents, yeah. Actually, des grands bâtiments qui s'effondraient. Vous savez, des accidents comme ça, ça peut même arriver à Paris.
C'est un immeuble de 9 étages qui s'est effondré le 11 avril 2005. C'est près de Dakar, ça va. Et c'est l'entreprise Spectrum Sweater. Il y a eu 64 morts, 74 blessés, les ouvrières, c'était la nuit. Les ouvrières qui ont été prises entre les plaques, entre les étages qui se sont effondrées comme ça. Et vous considérez que c'est un accident?
Definitely, it was an accident, you know. And there was some, you know, wrong construction problem with, you know... This is nothing with the... You know, quality of commerce in Bangladesh.
Ça n'a rien à voir avec la qualité de la confection au Bangladesh. C'était vraiment un accident qui tient plus à des faits de critères de construction qui n'ont pas été respectés.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi justement cette course au prix toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, auquel vous êtes astreint à cause de votre position? Effectivement, vous êtes un pays pauvre et vous devez produire plus bas. Est-ce que ce n'est pas cette pression que vous avez sur votre industrie qui amène ce genre d'accident?
Oh, not exactly, because
non,
you know.
Non, pas vraiment, je pense pas.
I'm telling you again, this Spectrum is not our national scenario.
Mais je this vous dis encore, c'est pas représentatif de ce qui s'est passé à l'échelon national, cette usine Spectrum.
Sauf que, 2 heures à peine après cet entretien, mais à peine. On a été appelé par téléphone par un ami journaliste de Chittagong qui nous a dit il y a une usine en feu. 2 heures après cet entretien, une usine en feu dans un quartier de Chittagong, dans le quartier de Kalurghat, l'usine KTS, c'est-à-dire une usine de confection. Alors, ce n'était pas du tout l'usine qu'on nous a fait visiter tout à l'heure. On s'était plongé dans la nuit. Les flammes sortaient de cette fabrique. Foule, pompiers, rares pompiers, angoisse. Et on a essayé de savoir ce qui se passait. C'est assez extraordinaire ce qu'on voit, parce qu'il y a un pompier avec un jet d'eau. Et ici, à 3 mètres de nous, il y a des cuves énormes. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, qui sont en train de fumer. Il y a des étincelles qui sortent des cuves. Et pour tout sauvetage, il y a ce jet d'eau qui tape en haut dans une...
Au deuxième étage.
On sent la chaleur, on est à 5 mètres de l'incendie. On voit des étincelles qui sortent de ces cubes qui peuvent très bien péter d'un moment à l'autre.
Là-bas, on voit des étincelles qui sortent et le feu continue à l'intérieur du bâtiment. Et pour l'instant, les pompiers n'ont pas réussi à entrer dedans. Mais on ne sait pas où sont les pompiers parce que pour l'instant, il y a un pompier à l'œuvre dans tout ça et un jet d'eau.
On éclaire à la lampe poche. On voit encore des flammes qui sortent.
Police commissaire.
Le commissaire de police est là aussi et toutes les autorités sont là.
C'est le chief law enforcing agency in the city.
C'est le chef de la police de la ville.
Bonjour, c'est pour la radio française. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé?
Yeah, the factory was set on fire at about 7:32, quarter to 8 o'clock.
L'incendie a commencé dans cet atelier de confection vers 7h30, 8h moins le quart aujourd'hui. La police a été prévenue, qui a immédiatement prévenu les pompiers.
And they are still on continuation, you know. There were electricity, gas system, there boilers and.
Et là, il y avait des chaudières, chemical, de l'électricité, des systèmes de gaz. Donc, il y avait plein de choses qui pouvaient provoquer l'incendie.
Chemical items are there.
Il y avait même des produits chimiques à l'intérieur.
Selon vous, I can't say.
Pour l'instant, on ne peut pas dire quelle est la cause.
Only gas, it could take place from the boiler.
Voilà, mais ce qu'on fait, c'est peut-être la chaudière qui a fait ça.
Combien de victimes pour l'instant officiellement?
About 60 burn injuries, out of which 6 died.
Plus de 60 personnes qui ont été brûlées et blessées par le feu. Il y en a parmi ces 60 personnes, 6 sont mortes.
Combien de personnes étaient au travail quand l'incendie s'est déclaré?
I can't say for sure. But as I heard, 1,200.
À peu près 1,200 personnes. C'est pas sûr, mais 1,200 personnes étaient là en train de travailler. Et là, pendant ce temps-là, on voit un gars qui est en train de se faire éclairer, qui est en train de monter une échelle bricolée avec des bambous et qui est soutenu par des autres.
Alors, l'immeuble a été vidé. Il n'y a plus personne dans l'immeuble.
We are not sure. We are afraid that some people are still inside.
Non, c'est pas sûr. On a peur qu'il y ait encore des gens qui soient à l'intérieur.
Et qui n'ont pas pu fuir.
Yeah.
People cannot enter in the inside.
Parce que les personnes n'ont réussi à rentrer à l'intérieur encore.
Pour l'instant,
we are not sure, but we apprehend.
On n'est pas sûr, mais on redoute de qu'il y ait des gens encore qui soient morts à l'intérieur.
Parce que pour l'instant, les pompiers n'ont pas réussi à entrer à l'intérieur.
Yeah, they are getting into, but not all the side is covered so far.
Ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur, mais pas à rentrer partout.
Est-ce que vous pouvez nous dire à qui appartiennent les entreprises qui sont là?
KTS.
KTS.
Mr. Ohidul.
Monsieur Ohidul, qui est le propriétaire de cette boîte.
Voilà dans quelles conditions sont cousues les chemises que nous portons, les vêtements que nous portons dans ce genre d'usine. Et quant au patron, Monsieur Ohidul Alam, qui est un patron important, qui possède 5 usines, on pense qu'il a autour de 10 000 ouvriers, ouvrières plutôt, qui travaillent pour lui, et bien sitôt que l'incendie s'est déclenché, il a fui. Il a fui avec sa famille, il s'est enfui, il s'est évaporé dans le paysage, il était introuvable. Par la suite, le lendemain ou le surlendemain, il a été arrêté. Je ne sais pas du tout où en est l'affaire pour l'instant. Là, on en était, selon la police, à 6 morts, selon d'autres sources, 8 morts, mais on était en plein incendie. Des femmes, des ouvrières étaient prises à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur des flammes. Certaines se jetaient par les fenêtres parce que les portes de sortie avaient été fermées. Et selon des rumeurs, mais qui se sont confirmées par la suite, les portes avaient été fermées parce que les ouvrières, au terme de leur temps de travail, c'est-à-dire au terme de leurs 10 heures de travail, elles voulaient partir. Mais comme il y avait une commande urgente, les contremaîtres avaient fait fermer les portes de façon à ce que les ouvrières restent dans l'usine pour continuer de travailler. Les informations ont été recoupées et il semble que cette version soit la bonne. On n'en est pas encore là pour l'instant. On est au milieu des flammes avec ces rares pompiers et ces flammes et cette nuit et cette angoisse.
C'est vrai qu'on sent les bouffées de chaleur là. Voilà, c'est là où le feu a commencé. C'est d'ici que le feu est parti. Et on voit encore des grandes flammes là qui sortent, regarde. Ah ouais.
Mais ce qui est assez formidable, c'est que cet après-midi même, on a visité un atelier, ici dans Chittagong, un atelier de couture, gentil comme tout, joli comme tout. On nous a dit, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de truc, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas raconter ça sur le Bangladesh. Et là, on voit un atelier où il y avait 1200 ouvrières qui étaient en train de travailler. Pour l'instant, il y a 8 morts, 60 blessés graves. Il y a peut-être des gens qui sont encore... à l'intérieur, il y a peut-être des morts à l'intérieur qu'on trouvera, on ne sait pas quand.
Et là, on voit les flammes qui sortent d'un côté. Et on voit les nappes de fumée là, qui s'élèvent du plafond et qui sous l'éclairage.
It may crack down.
Et maintenant, le risque, la crainte des uns et des autres, c'est que l'immeuble s'effondre. Parce que tu vois... Voilà, parce que tu vois, on voit toutes les armatures déjà en béton armé de l'immeuble.
Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que l'immeuble est en voie d'agrandissement et toute la partie qui est en train de flamber est une partie en construction et les échafaudages sont en bambou.
On entend des coups à l'intérieur.
It's under construction.
Oui, c'est encore en cours de construction. Ils étaient en train d'agrandir le bâtiment.
Because of their demand.
Parce qu'il y avait une demande forte.
Because they get more order from abroad, they extended their factories.
Et comme les commandes de l'étranger arrivaient de plus en plus, bah, ils ont agrandi leur usine pendant les travaux. Regarde là par les fenêtres, on voit des braises qui rougeoient là.
I'm very much sorry that it may crack down because last 5 years it is firing.
Mamoun est très inquiet que ça s'effondre parce que ça fait 5 heures que c'est en train de brûler sans que ça s'arrête et donc il y a vraiment un risque d'effondrement de ce bâtiment.
The factory is full of cotton, voilà. Raw materials,
il y a plein de matériaux premiers, de coton, de vêtements qui ont été
so
à moitié finis. Donc le feu est entretenu en permanence.
Regarde là, c'est en train de reprendre là, c'est en train de reprendre au-dessus de nous, tu vois, c'est un boulot fou hein. Les gars sont en train de monter une grande échelle à la main. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grue, il n'y a pas de véhicule. Les pompiers tiennent les lances, qui sont très faibles de portée, à la main. Et là, ils sont en train d'essayer de dresser une échelle, mais il n'y a pas de véhicule pour dresser l'échelle. Il y a un projecteur, un malheureux projecteur, pour savoir où ils en sont, quelques mecs. Et là, de toute leur force, ils ont commencé à dresser l'échelle contre le mur. Mais il n'y a pas de véhicule, quoi. C'est insensé, la pauvreté en moyen, quoi. C'est terrible hein, de penser qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur qui sont en train de brûler là-dedans. C'est dingue. C'est dingue parce que c'est cette pression imbécile de la consommation qui veut. Des prix, de la camelote, toujours de la camelote, toujours des prix plus bas. Et puis un pays hyper pauvre qui est bien obligé de s'écraser... et de répondre à ses commandes à prix cassé, quoi. C'est pas n'importe quel incendie, ce qu'on voit. Évidemment, ça se passe comme n'importe quel incendie. Sauf que ça, c'est un incendie de pauvre. C'est un incendie de pauvre et c'est l'incendie de l'exploitation.
Personne s'est encore aventuré à monter au haut de l'échelle, quoi. Elle est là, mais ils sont vraiment sous-équipés, quoi. Ça se voit, même leur pauvre casque, c'est plus un casque de déguisement de pompier qu'autre chose. Je crois que leur hantise, c'est que le feu atteigne les bambous qui sont au-dessus, parce qu'après, là, ça démarre et ça repart de plus belle. Quoi.
Il est minuit 20, ça fait 5h30.
La police qui passe, avec leurs gilets pare-balles et leurs fusils. Les quadrilles, ouais.
I think we should leave because other secret agency may follow us.
Ah, ils pensent qu'il faudrait mieux partir parce que maintenant, il y a des services secrets qui sont présents et qui risquent de nous suivre. Des bouffées de chaleur là qui a l'air qu'on passe pas trop loin de l'immeuble.
Là, ça continue par ici.
Et le feu continue. Voilà, les ambulances qui sont là, à moitié vides. Mais t'as vu, ça aussi, c'est encore des ambulances du tiers-monde, quoi. Ouais, c'est une pauvre camionnette avec un vide-camp à l'intérieur.
Voilà cet incendie terrible. Le lendemain, eh bien, nous nous rendons à l'hôpital de Chittagong, au Medical College Hôpital de Chittagong, pour essayer de rencontrer les familles des victimes, voir où en sont les victimes. Il y a foule, évidemment, une foule hagarde de gens hébétés d'angoisse, de souffrance, parce qu'on ne sait pas qui... des gens ont disparu, ma sœur a disparu, mon frère a disparu. C'est beaucoup, beaucoup des femmes, des jeunes femmes qui ont disparu. Et la foule est dans l'hôpital, cherchant dans tous les sens d'avoir des nouvelles des siens, des leurs.
Là, il y a tout un groupement de femmes. On voit que c'est des femmes modestes avec leurs saris qui sont posées dans un coin, qui attendent apparemment depuis un moment. Là, on sent la tension dans l'air. Il y a des gens qui sont là, à l'air un peu hagard dans les coins, en train d'essayer d'avoir des nouvelles. Et voilà, par là-bas, il y en a d'autres.
Vous avez des parents qui ont été blessés ?
Oui, c'est maman, mamie, c'est... J'ai ma tante et mon oncle qui sont blessés.
Vous aussi? Vous avez des gens de votre famille?
C'est ma fille qui est blessée.
Vous l'avez vue?
Non, je ne l'ai pas encore vue.
Voilà une dame qui nous regarde droit dans les yeux et qui tient la photo d'une gamine, d'une petite fille. C'est qui, madame? Vous nous montrez une photo?
C'est ma fille.
Vous la cherchez?
Oui, je la cherche.
Elle s'appelle comment?
Mouni. Elle s'appelle Mouni. Elle a 18 ans.
Elle était dans l'immeuble hier soir?
Oui, elle travaillait dans cette usine textile où on a eu l'incendie hier.
Et vous êtes sans nouvelles, là?
Non. Je ne l'ai pas encore trouvée parce qu'on ne m'autorise pas à entrer.
Vous attendez des nouvelles de votre fille?
Oui, j'attends ma fille qui travaillait dans cette usine.
Elle a quel âge?
Elle a 15 ans.
15 ans?
Ça fait un an qu'elle travaille dans cette usine.
Et vous êtes sans nouvelles d'elle?
Je ne l'ai pas retrouvée. En plus, on ne nous autorise pas à entrer. Pourquoi il nous fait travailler nos filles jusqu'à si tard du soir quand il doit normalement terminer à 16h30?
En principe, le travail devait s'arrêter à 16h30.
Alors dans cette usine, il n'y a pas d'horaire particulier pour arrêter le travail. Quelquefois, elle s'arrête à 16h30, quelquefois à 18h30, quelquefois elle travaille jusqu'à 10h du soir.
Mais elle travaillait à faire quoi là en ce moment, ces jours-ci? Hier, elle travaillait sur quoi?
Elle fabrique les pantalons et les chemises.
Mais pour qui elle travaille? Pour qui sont ces pantalons?
Ce qu'on entend, c'est pour les étrangers. On les exporte à l'étranger.
Mais vous savez où est son patron?
J'ai vu le patron hier quand il criait que c'est fini, mon usine, c'est fini, mon usine. Et le gardien a enfermé, il a fermé la porte à clé.
Parce
que le gardien s'est échappé, le gardien a disparu après avoir enfermé la porte à clé. C'est pour ça que ma fille et les autres ouvriers n'ont pas pu sortir. Et ils ont essayé de sauter par la fenêtre pour se sauver. Je n'ai pas de fils, c'est ma fille qui fait survivre ma famille.
Pour combien d'heures travaille par jour?
Du matin au soir, normalement, elle commence très tôt, vers 7h30, 8h, et elle termine à 9h30, 10h du soir. On pense qu'ils n'ont pas un bon traitement ici aussi, parce que nous sommes pauvres.
Voilà, la visite officielle est en train d'avoir lieu. C'est un ministre local qui est en train de s'arrêter devant les femmes qui sont allongées sur leur lit. Il s'incline et leur demande de leurs nouvelles et il y en a... Oh là 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 là.
Alors là, notre interprète ne nous a pas suivis parce qu'il y a une salle de 40-50 lits avec des gens, des femmes dans un état absolument terrible. Là, il y a par exemple Sophia, 15 ans.
Je sais pas. De brûlure, 16%.
16% de brûlure. Il y a celle-ci, 19 ans, 25% de brûlure. Elle est absolument défigurée, c'est atroce. Là, il y a celle-ci qui a l'air plutôt morte que vive, qui a 18 ans, qui, si elle n'est pas morte, en a plus pour longtemps. Là, c'est plutôt des morts qu'on est en train de voir que des brûlés. C'est assez terrifiant. Elle a 15 ans. Elle est brûlée à 16%, cette jeune fille. Celle-ci, elle est brûlée à 10%. On ne voit pas très bien, mais les visages absolument défigurés à jamais. celle-ci qui a l'air plutôt plus morte que vive, même si elle semble respirer encore un peu, elle est brûlée à 25%. Elle s'appelle Margina, elle a 19 ans, celle-ci a 18 ans, elle est brûlée à 15%. Celle-ci, Lovely, elle est brûlée à 30%. On est en train de lui faire des soins, mais ça a l'air bien désespéré. Celle-ci, elle est brûlée à 10%, elle a 18 ans. Celle-ci, c'est terrifiant. Celle-ci est en train de finir sa vie. Très probablement, c'est absolument terrifiant. Elle a le visage complètement boursouflé, gonflé. Et elle est brûlée à 30%, elle a 20 ans.
T'as vu les soins, quoi. Ils ont juste une perfusion de sérum fille et un peu de biafine sur les plaies, c'est tout, quoi.
Celle-ci a 17 ans, elle est brûlée à 21%. 10 pas. Cette jeune fille-là, son nom n'est pas encore indiqué. Elle bouge encore.
T'as vu l'âge de cette demoiselle-là qui est brûlée à 8%? 12 ans.
12 ans. Je crois que c'est la pire de toutes, celle-là. Hein,
elle a les mains complètement bandées.
Ouais.
Et la respiration octante.
Elle y travaillait. Je vois. Il faut lui faire de la place parce qu'elle est petite, cette femme. Vous vous appelez comment?
Namrishma.
Je m'appelle Reshma.
Reshma. Quel âge vous avez, Reshma?
J'ai 13 ans.
Vous avez 13 ans. Et vous travaillez dans l'entreprise?
Oui.
Je suis Tagati.
J'assiste à couper les fils.
Vous étiez là pendant l'incendie, au moment de l'incendie?
Si, là.
Oui, j'y étais.
Il
y avait une panne d'électricité et donc on avait mis le générateur. Mais quand l'électricité est revenue, on n'a pas éteint le générateur. Et donc c'est par là que l'incendie s'était produit.
Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu une explosion?
Oui, j'ai entendu le feu, et j'ai entendu au secours, et après j'ai vu beaucoup de personnes brûlées, et nous sommes tous sortis parce que nous avons eu peur.
Comment tu as fui, toi?
J'ai essayé de sortir. Comme je suis très petite, j'étais presque écrasée sous les pieds des autres. Mais quand même, on a tous couru vers la porte qui était fermée à clé. Donc, je n'ai pas pu sortir. Finalement, quelqu'un de l'extérieur de la porte m'a enlevé au-dessous de la porte.
Et après?
J'ai commencé à pleurer pour ma soeur qui était au-dedans, et après je suis retournée chez moi pour informer ma famille ce qui s'était passé.
Ta soeur était dedans?
Il n'a pas pu sortir, il est resté parce qu'il a essayé de descendre pour sortir. Mais comme le feu a été en bas, près d'escalier, il n'a pas pu sortir.
Donc, mais tu sais où elle est? Tu as des nouvelles d'elle?
Tout le monde m'a dit qu'elle est ici. Elle a été emmenée ici, c'est pour ça que je suis venue. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vue.
Et tu as quel âge?
J'ai 13 ans.
Et ta sœur, elle a quel âge?
11 ans. Elle a 11 ans, ma sœur.
Ta sœur, elle a 11 ans. Elle travaille et elle a 11 ans?
Oui, et elle travaille aussi.
Ah, combien tu gagnes par mois?
Je gagne 1000 takas par mois.
C'est ton premier travail?
Oui.
Shadhan habe. জানলে না তুমি সময় গেলে হবে
C'était Kikou nos chemises, nouvelle version d'un reportage dans un atelier de confection de Chittagong au Bangladesh. Un reportage de Daniel Mermet et Guy Vanktil, diffusé pour la première fois en mars 2006. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique, Gilles Gaillard et Yann Bouillot, réalisation Franck Adhérer et Bertrand Chaumeton, assistante Marina Touyez, chef du répondeur Grégory Salamonovitch. Vous pouvez dès maintenant laisser vos messages donc sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Pierre, qu'est-ce qu'elle fait celle-là dans la cuisine ?
Ah, je te présente la nouvelle chaudière à condensation au gaz naturel. La chaudière, Julie...
Bonjour.
Julie, la chaudière...
Et donc ?
Elle réduit jusqu'à 20% notre consommation d'énergie et nos émissions de CO2 aussi.
Avec le même confort ?
Oui, et pour fêter ça, j'ai cuisiné.
Et c'est parce que tu t'enflammes que tu baisses pas le feu sous le risotto ?
Pour en savoir plus, appelez le 0810 124 125. Prix de l'appel selon l'opérateur. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le flash, Delphine Simon.
Horaires, bagages, retard. EasyJet va devoir réviser ses conditions générales de transport. Le tribunal de Paris relève 23 clauses abusives. Pour les juges, EasyJet commet une faute en n'indiquant pas les tarifs lorsqu'elle demande aux passagers d'enregistrer son bagage à l'aéroport ou lorsqu'elle facture des frais de dossier de 4 euros pour les réservations Internet non réglées par Visa Electron et carte bleue. La compagnie low cost a 60 jours pour se mettre en conformité avec le jugement sous peine de pénalité. Elle devra également payer 30 000 euros de dommages et intérêts à l'UFC Que Choisir qui a porté l'affaire en justice. Neige et verglas au programme cet après-midi dans l'est et le sud-est de la France. 20 départements sont en alerte orange. La neige est tombée dans le Vaucluse, principalement dans le secteur d'Apt. La préfecture a tout de même pris un arrêté d'interdiction de circulation des poids lourds. Conséquence, des centaines de camions qui circulaient sur l'autoroute A7 sont bloqués vers Cavaillon. Écoutez la réaction de ce chauffeur plutôt étonné de cette décision. Il s'appelle Patrick Masquin.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on partait pour aller à Saint-Rome-Provence, puis ils nous ont bloqué l'eau, quoi, voilà. Puis 7h15. Et j'avais 7 km à faire pour pouvoir sortir. Mais ils n'ont jamais voulu. On n'en sait pas plus, quoi. À part à la radio, c'est tout. Ils nous ont rien dit de plus, quoi. Ils nous ont juste dit qu'on allait nous bloquer l'eau et c'est tout. Alors, je me serais pas engagé là, moi j'aurais pris la petite route, j'aurais refait demi-tour plus loin, puis c'était bon, je suis rentré. Hein. On attend. Il y a qu'en France-Provence, de toute manière. 3 flocons de neige, ça y est. 3 flocons de neige, c'est mort. Moi, je vois, normalement, je suis originaire des Ardennes. Moi, dans les Ardennes, on roule.
Voilà, dans le reste de l'actualité, Paris confirme des négociations exclusives avec l'Inde. L'armée de l'air indienne veut acheter 126 avions de combat. Elle a sélectionné Dassault Aviation. La négociation va s'engager très prochainement avec le soutien total des autorités françaises, affirme l'Élysée dans un communiqué. Des milliers d'enseignants dans les rues de Paris, manifestation nationale contre le projet de réforme des évaluations et contre les suppressions de postes. Très nombreux dans le cortège, les enseignants RASED, spécialisés dans la lutte contre l'échec scolaire. L'an prochain, 250 000 élèves seront privés d'aide spécialisée. C'est du moins ce que l'on peut lire sur les banderoles. La Cour constitutionnelle saisie d'un recours contre la loi sur la négation du génocide arménien. Un recours déposé par 76 sénateurs et 65 députés, parmi eux des parlementaires de la majorité. Ce recours ne me rend pas service, a expliqué tout à l'heure Nicolas Sarkozy à des sénateurs UMP. Le chef de l'État craint dans la foulée d'autres recours, notamment contre la pénalisation de la négation de la Shoah. En tennis, Tsonga, Monfils, Liodra et Beneteau joueront contre le Canada à Vancouver pour le premier tour de la Coupe Davis de tennis dans quelques jours. L'équipe est prête, les garçons sont motivés, affirme le capitaine de l'équipe de France Guy Forget sur le compte Twitter de la Fédération française de tennis.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Liz Green. Emel Matlouti.
Patricia.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La différence.
Il est bientôt 16h04 sur France Inter et c'est l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Quelquefois on oublie les grands chanteurs français ou les instrumentistes de notre pays. Évidemment, le monde est vaste et il y a beaucoup d'artistes partout, mais j'ai envie de donner un petit coup de chapeau à la demande d'ailleurs de Camille Sève qui m'a écrit, qu'elle avait déjà envoyé un email pour dire combien elle appréciait cette émission, mais elle insiste là sur le grand baryton Ernest Blanc qui a été employé à l'Arsenal de Toulon et on ne pensait pas qu'il allait devenir chanteur, mais néanmoins après beaucoup d'avancées, des concours de chant, le conservatoire de Paris, etc., etc., bah, il va être invité carrément à participer au festival de Bayreuth, sacro-saint, et puis il va faire une carrière tout à fait prestigieuse. Et on va s'occuper de l'opéra à Sanary, justement, puisqu'il y a une exposition à partir d'aujourd'hui même jusqu'au 11 février, et c'est dans le Var, Sanary, vous le savez, bien sûr, l'opéra dans tous ses états. Belle exposition, accompagnée évidemment d'un hommage à l'enfant du pays. À cette occasion, il y aura une conférence le 3 février sur l'opéra, œuvre d'art totale, une vente de livres sur l'opéra et la musique classique le 4 février, etc., etc. Alors, on me demande, est-ce que vous voulez dire un mot sur cette jolie manifestation? Ben voilà, c'est fait. Et on va entendre un petit peu Ernest Blanc, enfant du pays, justement, dans l'air fameux de Zurga. Et ça se trouve dans Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet. Il y a une rivalité entre deux amis, c'est terrible. Zurga, le chef du village, va condamner son copain, il faut bien le dire comme ça, Nadir, pour les beaux yeux de Leïla. Ils l'ont aimé tous les deux, mais Nadir a trahi sa promesse. Il avait dit qu'il ne se tournerait plus vers Leïla. Là, mais elle est revenue, elle est venue dans le pays et elle-même, eh bien, elle a fauté alors qu'elle aurait dû rester loin des hommes. Eh ben, ils vont être en principe exécutés et c'est le moment où Zurga chante « L'orage s'est calmé » et ensuite « Au remords, au regret qu'ai-je fait, au Nadir, tendre ami de mon jeune âge, ô Leïla, radieuse beauté ».
C'est impossible, j'ai fait un songe horrible dont tu n'as pu trahir ta foi. Dire tout